vous êtes un des écrivains de langue espagnole qui depuis quelque temps fait partie du groupe de l'Oulipo en France.
Oui.
Vous avez été sollicité, adopté, si on peut dire, par le groupe en même temps que Pablo Martín Sánchez,
oui,
qui est lui espagnol et qui est, vous êtes publié chez le même éditeur pour
depuis
le dernier livre, la Contrée.
Depuis un moment, on partage l'éditeur en plus. Oui.
Alors, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette je dirais pas adhésion, mais sollicitation tout d'un coup du groupe de l'Oulipo à votre égard?
D'abord, une énorme surprise. Au début, je pensais que c'était une blague d'un ami qui m'envoyait, comme j'ai reçu un email de... À l'époque, c'était le président de l'Oulipo, Paul Fournet. Je pensais que c'était une blague d'un ami, enfin, honnêtement. Après, bon, une grande surprise... une joie incroyable, honneur. Je me sens privilégié de pouvoir, une fois par mois, partager un moment de réflexion, de lecture, de bonheur, de travail avec des gens que, dans quelques cas, je le connaissais déjà et je les admirais déjà, comme, je sais pas, Hervé Le Tellier ou Marcel Benabou ou Paul Fournel. Dans d'autres cas, je les ai découverts et je les admire aujourd'hui après les avoir découverts. Mais c'est vrai qu'après chaque réunion de l'Oulipo, on se sent plus intelligent de ce qu'on est. On apprend énormément de choses. C'est très stimulant. De la même manière que je disais que le concert de rock me faisait sentir un peu moins seul à cette époque-là, d'une certaine manière, l'Oulipo aussi me fait sentir un peu moins seul dans quelques recherches de mon travail. Tout ce que je fais, c'est pas proche de l'Oulipo, forcément. Je continue à faire des choses non oulipiennes. On a le droit de le faire et même on est stimulé à l'intérieur de l'Oulipo à ne pas faire que de l'Oulipo. Ça serait artificiel, ça serait pas naturel. Mais quand j'entame des livres ou des projets ou même à l'intérieur d'un livre des fragments, des passages un peu plus dans l'exploration d'une forme, d'une stratégie ou d'une méthode d'écriture un peu plus singulière. Je peux le partager avec eux, je peux même dans la réunion discuter, dire je suis en train de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez. C'est génial d'avoir un endroit pour réfléchir autour de ça et partager des passions pour le jeu des langues, pour les jeux de formels, pour tout ce qui signifie l'Oulipo et la littérature un peu... potentiel, voilà.
Voilà. Alors, on va venir au travail non-oulipien de votre écriture, même si, bon, comme vous disiez, ce travail imprègne tout, du coup maintenant tout votre travail d'écriture, avec les derniers titres qui sont partis, qui sont sortis. Nous, on va partir les acheter. Ils sont sortis donc aux éditions La Contralée. Un père étranger et puis avec son pendant, un fils étranger.
Oui.
Donc là, vous êtes sur un travail autobiographique, on pourrait dire.
Oui.
Un peu décalé, mais quand même aussi autobiographique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce père étranger?
Alors, c'est vrai, c'est la première fois où j'utilise des choses liées à mon autobiographie. C'est pas une autobiographie pure, si on peut dire comme ça. Je le mélange avec d'autres choses. D'une certaine manière, un père étranger, c'est comme... deux romans qui se tressent un peu. Mmh. Au centre, il y a le narrateur. Le narrateur, ça pourrait être mon double. Ce narrateur a le projet, et même il a déjà commencé à écrire un roman. Le roman raconte un épisode dans la vie d'un écrivain assez connu, qui était Joseph Conrad. L'écrivain commence à écrire ce roman autour de Conrad. On montre même le roman en train de s'écrire, et même on peut le lire, on peut le suivre, le roman, mais en même temps, en parallèle, avec des allers-retours, il y a tout ce qui se passe dans la vie et dans la tête de cet écrivain, et il comprend, très vite, il comprend que cette histoire, cet épisode dans la vie de Conrad, il a été intéressé par ça, parce que dans ça, il y a l'histoire de sa famille, c'est-à-dire il y a comme un miroir. Et alors, les deux histoires avance d'une façon un peu pendulaire, on pourrait dire, mais finalement les deux histoires commencent à se mélanger, sont très poreuses, et voilà. Et ça, c'est un peu le livre qui raconte cet épisode et des quelques épisodes dans la vie de Conrad. Et je m'interroge ce qui c'est de changer de langue, de changer de vie, de se réinventer, d'être un étranger, etc. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on cache du passé. Et c'est toutes ces réflexions qui se prêtent très bien à la biographie, à l'œuvre de Conrad, se prêtent très bien aussi à l'histoire de mon père, qui est une histoire vraie, même si, bon, j'invente de petites choses, mais voilà. Et alors, il y a un côté où je fais un peu du roman avec Conrad et je fais un peu de roman aussi avec l'histoire de ma famille et de mon père. Voilà. Ça, c'est Un père étranger qui est paru le premier. Et quand j'ai publié Un père étranger, j'avais ni l'idée, ni j'imaginais même pas que j'allais écrire un deuxième livre. J'avais jamais fait ça. C'est-à-dire, j'avais jamais fait un livre qui reprend
prolonge un autre.
Jamais, mais parce que j'avais pas eu le besoin, ni. Mais quand j'ai publié ce livre-là, où j'étais convaincu d'avoir tout raconté, même je, il y a des pages où je raconte, je fais des listes des choses que à l'époque je me disais je ne vais jamais savoir ça, les questions que disons mon père a emporté avec lui après sa mort. Bon, après avoir publié Un père étranger, un ami m'a envoyé un cadeau totalement inattendu pour moi. Le dossier que mon père avait présenté vers 1950 pour se naturaliser argentin, pour avoir la nationalité, la citoyenneté argentine. Et là, il y avait des informations que j'avais jamais eues et je croyais perdues pour toujours. Par exemple, l'adresse exacte de la maison natale de mon père à Galati, la ville de Galați ou Galati en Roumanie, la date exacte du départ du bateau et de l'arrivée du bateau qui est parti du Havre, qui est arrivé à Buenos Aires, les noms et les prénoms exacts de mes grands-pères, de mes grands-parents, des choses comme ça.
Et puis tout ça en plus avec donc les documents d'époque, et du coup il y a une espèce de vérité comme ça, de matérialité qui est extrêmement importante, beaucoup plus forte qu'un récit même.
Absolument, même le document était émouvant, même les tampons sur les documents étaient émouvants. Et voilà, et là je suis parti, au début je suis parti pour moi, tout simplement, finalement connaître ce pays, parce que je n'avais jamais mis les pieds en Roumanie, mais tout ce qui s'est passé a été non seulement très intense, bien entendu, très, très émouvant, mais très surprenant, très curieux. C'était loin de ce que je m'attendais. Bon, j'avais anticipé un peu, ça peut se passer comme ça, j'avais pensé à 2-3 options, mais tout ce qui s'est passé dépassait vraiment mon imagination. Et alors très vite, j'ai compris que j'étais en train d'écrire un livre avec tout ça, qui est peut-être un peu moins romanesque, un peu plus dans un récit, on pourrait dire c'est plus un récit, mais aussi très fragmentaire, où je mélange aussi, il n'y a pas Conrad, mais il y a un autre écrivain, un écrivain roumain qui s'appelait Mihail Sebastian, et dont j'ai lu son journal, et je prends un peu la vie de Sébastien comme une possible vie de mon père si au lieu de partir et il serait resté en Roumanie. Je prends un peu comme j'imagine un peu le destin de mon père et des hommes comme mon père de la même époque, de mêmes origines, de la même ville presque. Si au lieu de partir, il serait resté en Roumanie, et j'ai lu le journal qui est un livre extraordinaire de Sébastien, où il raconte la montée de l'extrême droite en Roumanie dans ces années-là, et voilà, et je fais un peu encore une fois les jeux de miroir, mais d'une façon différente. Je voulais pas écrire le même livre non plus répéter la forme, la structure, mais il y a des clins d'œil. Il y a des clins d'œil entre les deux livres. Voilà.
Donc, il est déjà sorti ou c'est apparu ?
Les deux livres sont sortis.
Les deux sont parus, d'accord.
Sont parus chez La Contralée. Les deux traduits. Moi, j'écris. De temps en temps, j'écris en français. Rarement, ces deux livres-là sont écrits en espagnol et traduits par Jean-Marie Sanlu.
Bien, merci beaucoup Eduardo Berthier. Alors, merci, on n'aura pas le temps de parler des prochains, de ce qui est en chantier, hein, un manuel de lecture, si on peut dire, avec des méthodes de lecture. Mais ce que je vous propose, quand ça sortira, on se contactera, puis on en reparlera.
Volontiers, merci.
Merci beaucoup.